Dans le cadre de ses activités d'été, le Centre socio-culturel intercommunal de Losrevent et de la Sensée a organisé le 31 juillet 2020 une rencontre avec le youtubeur Monsieur Alex. C'est donc par une journée caniculaire que le youtubeur a rencontré les jeunes des villages de ce territoire qu'il connaît bien, puisque c'est là qu'il a grandi. Pour moi également, il s'agissait de retrouvailles, puisque j'ai partagé avec Monsieur Alex quelques aventures radiophoniques. Bonjour Alex.
Bonjour, ça va ?
Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Oui, ça fait plusieurs années, hein, 3-4 ans je dirais.
Je te croise moi souvent, mais tu ne me vois pas, je suis de l'autre côté de l'écran.
Ouais, je ne vois pas encore de ce côté-là, mais peut-être que ça serait quelque chose à développer, ouais, de se voir de l'autre côté aussi, de voir la tête des personnes qui regardent un peu ce qu'on peut faire.
Moi, je me souviens du très jeune Alex qui arrive à la radio en disant « Ouais, moi, je fais des études de droit. Actuellement, je suis au tribunal d'appel administratif de Douai. Je m'éclate pas, je vais devenir youtubeur. » Il y a eu du chemin depuis le temps.
Ah ouais, bah ça, c'était il y a 5-6 ans, je crois. Ouais, c'était mon stage de fin d'études et puis j'ai commencé à développer un peu mes vidéos. En fait, à la base, je suis parti à Paris pour faire des études de théâtre parce que je m'amusais pas vraiment dans le droit. Je m'ennuyais, même on peut dire dans le droit. C'était très sérieux, très loin de ce que je voulais faire. Et je suis parti à Paris du coup pour faire des études de théâtre et là-bas j'ai découvert le fameux monde du cinéma qui était très très compliqué parce que bah, quand on connaît personne, quand on vient d'un petit village du nord de la France, bah, c'est pas toujours évident de se faire son chemin. Et donc c'est là que j'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que en fait c'est une plateforme qui permet d'avoir directement accès aux abonnés, aux gens, et il n'y a pas de casteur, il n'y a pas de directeur de casting, il n'y a pas de producteur qui te donne ta chance ou pas, c'est directement le public qui dit si ça marche ou si ça marche pas.
Mais il y a quand même des codes à connaître.
Ouais, et les codes évoluent tout le temps en fait. C'est-à-dire que ce qui était valable il y a 5 ans n'est plus du tout valable aujourd'hui. Par exemple, quand j'ai commencé, je faisais que des face cam. Donc je tournais des vidéos dans ma chambre tranquillement en parlant directement à la caméra comme si je m'adressais aux gens. Puis maintenant, ça a pas mal changé et je m'adapte et j'ai plus parti dans du caméra cachée, micro-trottoir, ce genre de choses quoi.
Tout en restant gentil.
Ah ben je sais pas, oui ben
c'est quand même ta marque de fabrique, c'est quand même la gentillesse, c'est rien de méchant dans ce que tu fais.
Oui, bah c'est vrai que j'ai jamais voulu, même dans les caméras cachées ou dans les micro-trottoirs, j'ai jamais voulu piéger les gens. On les piège, mais pas à leur insu. C'est-à-dire que déjà, à la fin, bon, de toute façon, c'est la loi, mais on est obligé de leur demander leur accord pour que ce soit diffusé. Mais j'ai rarement des noms parce que je les mets pas dans des situations gênantes, en fait, parce que même moi, je serais mal à l'aise. Donc c'est plutôt moi qui me mets en situation gênante et je filme leur réaction à eux face à mes situations qui sont un peu étonnantes, quoi.
Qu'est-ce que tu fais avec ces jeunes gens quand tu viens ici ?
Bah, j'aime bien échanger avec eux parce que déjà ça me permet de rester connecté parce que mine de rien, bah, comme tu le dis, les années passent, hein, ça fait quelques années que je fais ça maintenant et ça me permet déjà de rester connecté avec une partie de ma cible parce que les jeunes comme ça, collège, lycée, ça fait encore partie de mon audience même s'il y en a aussi qui ont mon âge et du coup ça me permet de rester connecté. Donc en fait ils m'apportent autant que moi j'espère leur apporter, donc après moi je parle avec eux de tout ce qui est réseaux sociaux mais pas uniquement les dangers parce qu'on a tendance à trop souvent pointer du doigt les dangers des réseaux sociaux. C'est vrai, il y en a, ils existent, mais j'aime bien aussi le côté c'est une chance, il y a plein de nouveaux métier, ben j'en suis la preuve, hein. Sinon aujourd'hui je serais peut-être encore dans mon bureau sous 37 degrés en train de faire rédiger des arrêts de droit ou quoi. Et en fait c'est vraiment une chance tout ça, et je me dis faut aussi leur transmettre le côté que les réseaux sociaux, si on les utilise bien, si on fait bien attention, ça peut être un super outil en fait.
Avec toute la responsabilité qu'il y a derrière malgré tout, parce qu'il faut leur apprendre à être consommateur, j'ai envie de dire, même si le mot n'est pas beau, hein, d'informations et de contenu, mais également producteur éventuel et diffuseur.
Ouais, c'est ça. Il faut qu'ils aient une certaine distance parce que c'est vrai qu'on a toujours été habitués, même ma génération, etc., à voir la télévision où c'était que de l'information qui était vérifiée, qui était vraie pour la plupart du temps. Voilà, les médias, il y a des chartes, il y a une déontologie chez les médias.
Mais qui était surtout descendante, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas nous produire.
C'est ça. Et maintenant, c'est vrai qu'on a tout le monde peut créer. Donc, c'est quelque chose de génial parce que du coup, ça donne la chance à tout le monde de pouvoir se lancer. Mais d'un autre côté, c'est aussi des dangers, c'est que ça donne à tout le monde la chance de pouvoir lire des choses que n'importe qui peut faire sans être contrôlé. Donc, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup tout ce qui est fake news développé, etc. Et je pense qu'il faut aussi sensibiliser les jeunes publics. Mais spontanément, je pense qu'ils sont plus sensibilisés que certains publics plus âgés parce que justement, ils ont grandi avec ça, ils ont grandi avec les codes d'Internet et donc ils savent repérer ce qui est vrai et ce qui est faux.
C'est à eux aujourd'hui de nous prouver de l'utilité finalement de ces outils quand ils sont bien utilisés.
Ouais, c'est ça en fait, c'est toute une génération qui est née avec et qui, si ils utilisent bien ces outils-là, finalement peuvent prouver qu'en fait il y a de très bonnes choses qui peuvent en sortir. Puis on en voit plein, de jeunes qui lancent des initiatives qui ne pourraient pas avoir lieu sans Internet et qui sont juste incroyables, même en matière d'écologie ou ce genre de choses.
Tu arrives à te déconnecter ?
C'est pas toujours évident, j'essaie, mais c'est pas toujours évident. Après, je suis pas tout le temps sur mon téléphone. J'avoue que j'y suis quand même pas mal, même pour le travail, les mails, les appels, etc. Mais finalement, réseaux sociaux, j'y passe pas tant de temps que ça, en fait.
Parce que ça, c'est la crainte de nombreux parents. C'est de se dire, mais mon ado, mon gamin, il est toujours là-dessus. Et de plus en plus jeune, on les voit accro.
Ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention. Après, je pense qu'interdire donc, n'est pas une bonne idée parce que justement, c'est ce qui crée une sorte de frustration qui après peut créer peut-être trop d'attaches aux réseaux sociaux. Je pense qu'il faut contrôler et aller avec son enfant dessus pour le sensibiliser, lui apprendre, lui expliquer. Puis maintenant, il y a plein d'outils formidables qui sont mis en place. Par exemple, les téléphones, on sait qu'au bout d'un certain moment d'utilisation, le téléphone peut se couper et on ne peut plus utiliser Internet. Donc, on sait aussi que les constructeurs, les réseaux sociaux, ils mettent en place maintenant même Instagram. Il nous dit combien de temps on a passé dessus. Donc, on voit quand même dans le sens d'une utilisation qui est plus, comment dire, qui est plus équilibré, je pense.
Tu as déjà mesuré le temps où tu te sers de ton téléphone pour téléphoner et le temps passé pour y faire autre chose?
Je peux vérifier ça en direct. Alors, je l'ai activé il n'y a pas longtemps, mais à temps d'écran, voilà. Alors, ma moyenne quotidienne sur mon téléphone est de 5h43. Donc, c'est beaucoup. Je le conçois sur 24h. Je ne dors pas beaucoup après, donc voilà. Mais alors, je ne sais pas si on peut voir selon les applications. Non, je pense en toute honnêteté, sur les 5h43, il y a bien 3h sur les réseaux sociaux, ouais. Après, c'est vrai que bon, c'est aussi mon travail, donc je me force à passer du temps dessus, notamment le soir avant de me coucher, pour regarder ce qui se fait, pour avoir des idées, de l'inspiration, pour moi-même aussi créer du contenu.
Fidéliser son public, rester original, ce sont les défis auxquels sont confrontés les youtubeurs, et bien évidemment, l'enfant du pays, Monsieur Alex, n'y échappe pas.
Ça commence à limite... vraiment limite devenir impossible, parce que même des fois on se rend pas compte, on se dit j'ai une idée originale, je tiens un super truc, on y va, on la lance, et en fait on se rend compte 2 semaines plus tard qu'il y en a un qui a fait la même idée. Donc ça devient très très dur, mais je pense que peut-être que ce qui apporte la spécificité c'est d'être soi-même, la personnalité d'être soi-même, de rester soi-même, et que du coup bah, on est tous uniques, et peut-être qu'en restant soi-même ça permet d'apporter une spécificité. Mais après en termes de ce qu'on fait, même aujourd'hui quand je choisis des sujets de micro-trottoir ou quoi, c'est super dur de trouver un sujet qui a jamais été fait, c'est très difficile.
Poser une question bête, mais qui te paye ?
Oh bah ça dépend, il y a un peu de tout, il y a les vues, il y a les vues sur YouTube, mais c'est pas la majorité parce que je fais pas des millions de vues, c'est beaucoup de partenariats, placement de produits, donc ça va être des marques en fait qui paient pour être présents sur les réseaux sociaux, mis en avant, mais même là de toute façon je fais une sélection, j'accepte pas de faire des partenariats avec tout ce qui est par médical, on est contacté des fois pour des thés qui font maigrir ou ce genre de choses, j'estime que je suis pas du tout la bonne personne pour vendre ce genre de produits, donc ça je le fais pas par exemple. Mais je fais des parcs d'attractions des fois, ou des nouvelles applications, des jeux, des vêtements, c'est des choses que je maîtrise et que j'aime faire, quoi. Toujours en rapport avec ce que j'aime bien, en tout cas.
T'as appris ça, devoir le gérer, ou alors il y a quelqu'un qui le fait pour toi ?
Non, je fais tout seul, ouais. Et on m'a déjà proposé de rentrer dans des agences, mais c'est pareil, ça fait un peu... Voilà, il y a des agences qui sont greffées au principe, parce qu'elles peuvent prendre des pourcentages. Mais vu que moi, depuis toujours, il y a au moins une chose que j'ai retirée du droit, c'est ça. C'est que je sais faire mes devis, je sais faire mes contrats, etc. Et puis, j'ai été accompagné par BGE. Je sais pas, c'est qui m'ont aidé pour la création de mon entreprise, qui m'ont aidé à tout ce qui est facturation, etc. Donc j'ai été pas mal accompagné et maintenant ça roule. Mais non, je tiens à continuer à faire tout seul parce que du coup ça évite qu'on me force à faire les choses, quoi.
Tu en vis bien, tu en vis de façon suffisante, heureux?
Franchement, très heureux, très épanoui. Ça fait 3 ans maintenant que j'en vis. Et puis là, depuis le mois de janvier, je travaille aussi pour la région. Donc je travaille pour le Comité Régional du Tourisme des Hauts-de-France. Et donc je réalise des reportages pour promouvoir le tourisme. Et c'est mon premier travail salarié. Et c'est grâce à YouTube que je l'ai eu parce qu'ils m'ont contacté par rapport à ça, en fait.
Ce qu'ils ont voulu avoir, c'est quoi ? C'est le regard et l'œil, justement, de Monsieur Alex ?
C'est exactement ça, en fait, parce que même encore aujourd'hui, donc je travaille pour une marque qui s'appelle Eau et Fort, et donc c'est pour promouvoir tout ce qui est Eau et Fort dans la région. Et en fait, ils veulent que je réalise des reportages dans lesquels j'apparais comme je faisais mes micro-trottoirs ou pas mes caméras cachées, parce que là, il ne s'agit pas de piéger les gens. Mais voilà, je vais tester des activités, pour la plupart du temps, qui sont dans les Hauts-de-France, et je les mets en avant, en me mettant en scène, en train d'essayer ça. Et ils veulent vraiment que je garde ce côté que j'avais sur les réseaux sociaux, proximité. C'est moi, c'est vraiment moi qui teste les activités, c'est pas le JTTF, hein, quoi.
Est-ce que tu as l'impression d'endosser une responsabilité supplémentaire là quand on est justement dans cette relation où c'est une commande institutionnelle ?
Ça m'a fait très peur au début. Au début, de toute façon, quand j'y étais, j'ai été honnête, ouais, je leur ai dit que je ne savais pas parce que c'était mon premier job, donc je ne savais pas si je pourrais comme ça travailler avec des contraintes, etc. Et au final, ils ont été jusque-là, ils sont super cool avec moi et ils me laissent une vraie autonomie, c'est-à-dire qu'ils me font confiance.
Tu fais de la com là ou tu fais de la publicité ?
Je dirais de la com, parce que on donne vraiment mon ressenti, on me laisse vraiment ma marge de manœuvre. C'est-à-dire que s'il y a des activités que je ne sens pas, on ne me demande pas d'aller les faire.
Les gamins font la différence entre une communication, une publicité et une information.
Ça, par contre, ça dépend, mais je ne suis pas sûr pour tous. Et c'est ça, hein, et ça, c'est un vrai problème sur les réseaux sociaux. Alors, on sait que les pouvoirs publics essaient de lutter. Maintenant, on est obligé de mettre, quand c'est un partenariat, qu'on est rémunéré. On est obligé de le mettre. Tous les influenceurs ne jouent pas le jeu. Mais même le fait de mettre la mention partenariat, est-ce qu'un jeune qui va voir une publication va se dire, s'il suit un YouTuber qu'il adore, il va le voir vanter un produit, vanter les mérites d'un produit. Est-ce qu'il va pouvoir avoir le recul de se dire, il est payé pour dire ça ou pas? Ça, c'est compliqué encore de se le dire. Après, je pense que le rôle plutôt des YouTubers, c'est justement de ne vanter que des produits dans lesquels ils croient. Et en général, quand ils le font pas et qu'ils le font pour l'argent et qu'ils vendent des produits dans lesquels ils croient pas du tout, ils se font avoir derrière. Ça se sait.
Il y a de l'écriture dans ce que tu fais. Est-ce qu'il y a une phase où on écrit un script, un scénario, un synopsis? Je sais pas comment tu procèdes.
J'écris. C'est vrai que j'écris des synopsis. Alors ça, c'est pas un travail aussi complet que effectivement ce que peut faire un écrivain, mais ça va être en général des résumés. Ou alors ça dépend, parce que par exemple sur Facebook ou Insta, ce genre de réseau, je fais plutôt des petits sketchs, des petites scénettes en fait, avec notamment les gens de ma famille. Donc là, j'écris parce que faut avoir la chute avant, etc. Par contre, tout ce qui est micro-trottoir, c'est spontané. Donc là, j'écris des vannes à l'avance, j'écris des choses sur lesquelles j'ai envie d'aller, mais la plupart du temps, on va jamais vers ça parce qu'en fait, on se laisse guider par la personne avec laquelle on est. Et c'est faut rebondir sur ce qu'elle dit tout le temps et il faut se laisser guider vers ça en fait. Donc ça dépend vraiment des vidéos. Tout ce qui est micro-trottoir, caméra cachée, c'est spontané, même s'il y a une petite base d'écrite. Et tout ce qui est sketch, c'est écrit à l'avance, ouais.
Monsieur Alex, youtubeur rencontré le 31 juillet 2020 au centre socio-culturel intercommunal de l'Ostrovan et de la Sensée à l'occasion d'une journée de sensibilisation des jeunes à l'usage des réseaux sociaux. Interview Hervé Dujardin pour Radio Scarp Sensée.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.